Vous êtes bien à l'écoute de RFI, Radio France Internationale. Il est 23h ici à Paris et 21h en temps universel. Voici votre journal.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de cette édition, Haïti renaîtra, les premiers mots du Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert à l'occasion de l'investiture officielle du Conseil présidentiel de transition pour sortir le pays de la violence des gangs et le remettre sur les rails de la démocratie. Des rassemblements populaires dans le monde et des condamnations internationales nombreuses ont peut-être fait fléchir la justice iranienne qui estime que le rappeur Tomaï Saleri, condamné à mort cette semaine, pourrait faire appel et voir sa peine à ménager. Et puis les indigènes du Brésil se rassemblent en tenue traditionnelle dans la capitale pour réclamer du président Lula qu'il tienne sa parole de sanctuariser leurs terres ancestrales et créer des réserves leur permettant d'échapper à la déforestation. Une page se tourne en Haïti. Elle est saluée par l'ONU comme une nouvelle opportunité d'avancer vers le rétablissement des institutions démocratiques. Le Conseil présidentiel de transition a en effet prêté serment ce jeudi à Port-au-Prince. Cérémonie en deux temps, d'abord en catimini sur le site du palais présidentiel et alors que des rafales d'armes automatiques résonnaient dans le centre de la capitale, puis au siège de la primature devant une assistance plus protocolaire. Mise en place avec le concours de la communauté caribéenne, ce conseil de transition doit notamment s'atteler à la formation d'un gouvernement intérimaire de transition. En attendant sa mise en place, c'est Michel Patrick Boisvert qui assure le rôle de Premier ministre intérimaire. Il s'est exprimé lors de cette cérémonie. Écoutez-le.
Ce jour ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire au changement possible auquel toutes les couches de la population appellent de leurs vœux. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par les Haïtiens. C'est pourquoi c'est à cette tâche, Madame, Messieurs, les membres du Conseil présidentiel que vous êtes appelés. Celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays.
C'était donc Michel Patrick Boisvert, Premier ministre intérimaire, en attendant un gouvernement de transition en Haïti. Les États-Unis saluent une étape cruciale pour l'organisation d'élections dans un pays qui n'en a pas connu depuis 2016. Et l'ONU a, elle, salué la mise en place de l'organe et appelé les nouvelles autorités à accélérer la mise en œuvre complète de leurs engagements. Une mission internationale de sécurité soutenue par l'ONU est censée être menée par le Kenya est toujours dans les limbes. Le secrétaire général de l'ONU a de nouveau exhorté jeudi au déploiement rapide de cette force, selon son porte-parole. Après des rassemblements spontanés de soutien au rappeur iranien Tomaï Saleri, condamné à mort par un tribunal révolutionnaire mercredi, et des condamnations de la France, de l'Italie, ainsi que d'experts indépendants du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une lueur d'espoir pour celui qui avait soutenu les manifestations suivant la mort en détention de la jeune kurde Mahsa Amini en septembre 2022. Il semblerait en effet finalement que la justice iranienne fasse quelque peu marche arrière. Les explications de Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran.
Dans un communiqué publié ce jeudi, la justice iranienne a affirmé que le rappeur pouvait faire appel et même en cas de confirmation de sa peine par la Cour suprême, la commission de la justice chargée des mesures de grâce pourrait réviser cette peine. Le communiqué ajoute que le rappeur s'était repenti et avait coopéré avec la justice, ce qui lui a assuré une réduction de peine. Tomaï Saleri est emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation. À l'époque, il avait appelé les Iraniens à combattre le pouvoir et à la sédition dans de nombreuses chansons partagées sur les réseaux sociaux. Le tribunal révolutionnaire d'Ispahan a condamné Tomaï Saleri à la peine de mort pour propagande contre le pouvoir et appel aux émeutes. Ce verdict a été prononcé dans un contexte durcissement des mesures contre les femmes mâles ou non voilées avec de nombreuses arrestations d'Iraniennes par la police. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et rappelons que plusieurs centaines de personnes, dont des membres des forces de l'ordre, ont été tuées et des milliers arrêtées au cours des manifestations qui se sont tenues en octobre et novembre 2022 en Iran. 9 personnes ont par ailleurs déjà été exécutées en lien avec ce soulèvement. Par ailleurs, les États-Unis ont encore renforcé jeudi leurs sanctions contre l'Iran, ciblant de nouveau l'industrie des drones militaires, en parallèle à des sanctions similaires prises par le Canada et le Royaume-Uni près de 2 semaines après l'attaque de Téhéran contre Israël. Et puis, à ce sujet, 18 pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Brésil ou encore l'Allemagne, exhortent le Hamas, dans une déclaration commune, à libérer immédiatement les otages détenus dans la bande de Gaza. Les 18 pays ont tous un ou plusieurs ressortissants détenus par le mouvement armé palestinien. RFI, 23h06 ici à Paris, 21h06 en temps universel. Au Brésil, maintenant, les peuples indigènes se mobilisent une nouvelle fois pour défendre leurs droits. Comme chaque année, depuis 20 ans, des milliers d'entre eux sont rassemblés toute cette semaine à Brasilia dans le cadre du campement Terre Libre. Au menu des débats, des manifestations et des danses traditionnelles, mais au cœur des revendications de ces peuples autochtones, il y a surtout la protection de leur terre. Pendant sa campagne électorale, Ignacio da Silva, le président, avait promis de créer des réserves, mais il semble que cela ne soit pas aussi simple, Marine de la Moissonnière.
Depuis le retour au pouvoir de Lula, seules 10 nouvelles réserves ont été créées. Insuffisant, estiment les manifestants, qui demandent au gouvernement de faire plus. Terry Itaoka, indigène de 16 ans, rencontré par Raquel Miura, de la rédaction en brésilien de RFI.
Je veux la paix, que les enfants soient heureux dans leur village, qu'ils puissent jouer sans crainte. Je pense que c'est un peu lent, un peu difficile pour le mouvement, parce que nos terres n'ont pas encore été délimitées. Nous venons donc ici pour nous battre, pour avoir un meilleur avenir, pour qu'ils ne nous enlèvent pas nos terres.
Problème, le puissant secteur de l'agronégoce et ses alliés conservateurs qui dominent le Parlement sont contre la création de ces réserves. Et puis ces terres, elles sont souvent occupées illégalement. Marina Silva, ministre de l'Environnement.
Il faut chasser complètement les envahisseurs des terres indigènes, qu'il s'agisse des terres Munduruku, des terres Kayapo, des terres Yanomami, où l'on trouve des exploitations minières ou forestières illégales. Nous avons déjà réussi à expulser les envahisseurs des terres indigènes de l'ethnie Apitérewa. Ce n'est qu'un début. Nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant et nous devons travailler dur pour que les peuples indigènes du Brésil obtiennent justice.
Ces réserves ont un double intérêt. Elles permettent de protéger le mode de vie traditionnel des autochtones et d'endiguer la déforestation de l'Amazonie.
Marine de la Moissonnière, merci. Une chaleur extrême avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius continue jeudi de frapper toute cette semaine, d'ailleurs, de frapper une bonne partie de l'Asie, du Népal à la Thaïlande, où 30 personnes sont mortes depuis le début de l'année, rien qu'en raison de ces températures élevées. Depuis le début de la semaine, des dizaines de millions de personnes dans le sud et le sud-est du continent sont affectées par cette canicule. Les autorités de plusieurs pays appelant à rester chez soi pour protéger sa santé. Même le Népal, pourtant perché en altitude dans l'Himalaya, a mis en alerte les hôpitaux en cas d'afflux de patients dû aux 40 degrés attendus dans 2 provinces du sud. Et justement, au Bangladesh, cette décision radicale des autorités, les écoles sont fermées jusqu'à la fin du mois. C'est une catastrophe, estime Emily White de l'organisation Save the Children.
This is a huge problem because children have a right to go to school and to have education.
C'est un énorme problème parce que les enfants ont droit à l'éducation. Aller à l'école est un droit. Et si les écoles ferment, c'est problématique pour leur avenir, pour leurs conditions économiques et sociales. Mais l'école, c'est aussi un moyen de protéger les enfants. On sait par expérience, et la crise du Covid nous l'a montré, qu'un enfant qui ne va plus à l'école est plus souvent victime de travail forcé, de mariage précoce ou d'exploitation sexuelle. Et on sait également que plus un enfant reste éloigné de l'école, et plus c'est compliqué pour lui d'y retourner. Et c'est ce que l'on craint avec la situation actuelle au Bangladesh, que des enfants ne retournent plus à l'école. Et ne plus avoir accès à l'éducation est une terrible injustice pour ces enfants, qui ne sont absolument pas responsables de la crise climatique. Mais malheureusement, cette année, le Soudan et les Philippines ont également dû fermer des écoles, et on craint que cela se répète à l'avenir avec le réchauffement climatique.
We are expecting to see more of this.